Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires mais qui ont un lien fort avec le Sud-Ouest. Nous allons évoquer un papier paru dans l'Humanité et que l'on peut encore retrouver sur le site du quotidien. Il s'appelle Joseph Almoudévert, un siècle de combat. Cet article, c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Bruno Vincent.
Bonjour.
Bruno, vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour Médiacité Toulouse et vous étiez venu à notre micro pour nous parler de la Dépêche du Midi. Mais vous êtes aussi correspondant en Occitanie pour l'Humanité depuis 1989, ce qui vous avait amené à écrire ce papier il y a 2 ans sur Joseph Almoudévert. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de nous quitter à presque 102 ans chez lui, en Ariège. Avec lui, c'est un pan entier de l'histoire de l'Europe qui s'effondre, car Joseph était probablement le dernier survivant des brigades internationales. Nous allons évoquer tout cela en détail, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Joseph Almoudévert il y a 2 ans? Dans quel cadre a-t-elle eu lieu et quelle impression vous a-t-il laissé?
Oui, j'avais appris l'existence de Joseph Almoudévert, qui était l'un des derniers, peut-être le dernier survivant des brigades internationales. J'avais appris son existence. Et en plus, comme il habitait dans ma région, pas très loin de chez moi, c'était l'occasion de le rencontrer, d'autant plus que j'avais également appris qu'il allait avoir 100 ans. Donc, pour le journal L'Humanité, avec un photographe, nous sommes allés le rencontrer à la tour de Crieux, c'est près de Pamiers, en Ariège, et on l'a rencontré chez lui, dans la maison qu'il avait lui-même construite, puisqu'il était maçon. Chez lui, sur les murs, il y avait plein de photos de la guerre d'Espagne, d'affiches, de drapeaux républicains aux couleurs républicaines. Voilà, et il nous a raconté dans le détail sa vie très chargée, très riche. J'étais un petit peu inquiet, je me dis, il allait avoir 100 ans, dans quel état mental est-il? Bon, j'ai été tout de suite rassuré, il avait un esprit très vif, et des souvenirs très clairs. Il nous a raconté son long et très tumultueux parcours.
Dans cet épisode, il sera évidemment question de la guerre civile espagnole qui a déchiré ce pays entre 1936 et 1939. D'un côté, les républicains et le gouvernement qui a été démocratiquement élu. De l'autre, les nationalistes emmenés par le caudillo, le général Franco, qui lance un coup d'État en juillet 1936. Au terme de 3 ans de combat, ce sont ces derniers qui l'emportent. Pour en revenir à Joseph, lui, il naît en 1919 à Marseille, dans une famille d'origine espagnole. Dans quel milieu grandit-il ?
Dans un milieu très modeste. Sa famille et ses parents sont immigrés à Marseille. Bon, à Marseille, il fréquente l'école de la République. Il apprend à lire et écrire. Mais à l'âge de 12 ans, les parents ont envie de revenir en Espagne, à l'âge de 12 ans pour Joseph, donc en 1931. Il regagne le village natal en Espagne, qui est près de Valence. Dans ce village, la population est très pauvre. Et dans les campagnes espagnoles, dans les années 30, la population est souvent miséreuse. Bon, la grande majorité des villageois sont d'ailleurs illettrés. Et Joseph, qui est enfant puis adolescent, va lire les journaux aux villageois, parce que lui sait lire en français et en espagnol, et il lit beaucoup la presse et il raconte les informations aux villageois qui n'ont pas la chance de savoir lire.
Oui, c'est ça. Et donc à Alcácer, c'est là où il vit désormais, le jeune Joseph, évidemment, par ce biais, se tient très informé. Il a notamment vent de ce que l'on appelle la révolution asturienne. En octobre 1934, des partis et des syndicats de gauche s'unissent en s'appuyant notamment sur les mineurs pour créer une république socialiste. Cette tentative est réprimée dans le sang par un général de brigade devenu chef d'état-major l'année précédente, un certain Francisco Franco. On relève plus de 3000 morts. Très vite, Joseph fait donc partie de celles et ceux qui comprennent qui est Franco.
Oui, sans doute que cette période dramatique qui s'est achevée dans le sang, comme vous l'avez dit, a contribué à la prise de conscience politique de Joseph Almoudévar. Déjà, il a vu que les troupes commandées par Franco n'ont pas hésité à réprimer dans le sang, à tuer massivement les populations asturiennes, notamment les mineurs en grève. Cet épisode, Joseph a alors 15 ans, l'a beaucoup marqué politiquement, et ça a beaucoup contribué à son éveil politique.
Oui, parce que cet engagement contre Franco est indissociable des convictions communistes de Joseph Almoudévar. Que vous a-t-il dit pour expliquer son attachement à cette doctrine ?
Joseph était anticapitaliste. Pour lui, le capitalisme ne faisait que semer la guerre et la misère. Et lui-même, quand il était en Espagne, et puis pendant la guerre, a connu la faim. La faim a été l'une des raisons de son engagement politique contre le capitalisme. Très vite, dès l'âge de 16 ans, il s'est engagé politiquement dans les jeunesses socialistes unifiées qui, comme son nom ne l'indique pas, ne sont pas socialistes mais communistes. Et donc il devient communiste à l'âge de 16 ans, et il le sera toute sa vie, il y a encore quelques jours, voilà, alors qu'il avait presque 102 ans.
En février 1936, donc un an et demi après sa répression dans les mines asturiennes, le Frente Popular, le Front Populaire, est élu, mais une partie de l'armée se soulève en juillet. C'est le début de la guerre d'Espagne et Joseph s'engage aussitôt, malgré son jeune âge.
Oui, il n'a que 17 ans ou 17 ans et demi, donc il n'a pas l'âge pour pouvoir combattre dans les rangs de l'armée républicaine. Mais il trouve... C'était un malin, Joseph. C'était un débrouillard. Et il était allé à la mairie de son village et il s'est fait faire un faux certificat de naissance qui lui permettait de le vieillir de 2 ans. Et avec ce faux certificat de naissance, il peut s'engager dans l'armée républicaine et combattre. Et malgré son jeune âge, il va combattre avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, malgré le fait que les armées républicaines étaient souvent démunies d'un point de vue militaire, avaient un armement très nettement inférieur à celui de l'ennemi. Joseph s'est totalement engagé dans les rangs de l'armée républicaine et il a été blessé en mai 1938 par un tir de mortier.
Oui, on va y venir, mais sur ce début du conflit, Joseph conservait, jusqu'à la fin de sa vie, je crois, une vraie rancœur, une dent contre Léon Blum, lui-même à la tête du Front Populaire en France, et qui n'a pas osé prendre parti dans cette guerre, ne serait-ce qu'en fournissant d'ailleurs de l'armement, puisque vous l'avez dit, les troupes républicaines étaient largement démunies par rapport aux troupes franquistes.
Elles étaient d'autant plus démunies que les troupes franquistes avaient pour alliés l'Allemagne hitlérienne et l'Italie mussolinienne, dont les armées, les aviations venaient soutenir les troupes franquistes. Face à ces ennemis franquistes, mais aussi hitlériens et mussoliniens, l'armée républicaine était en grande difficulté, elle manquait d'armement. D'où son appel, évidemment, à la République française. Il se trouve que le Front Populaire et son gouvernement conduit par Léon Blum ont d'abord hésité. Le Royaume-Uni, très vite, a indiqué qu'il ne voulait pas intervenir dans la guerre d'Espagne et a même fait pression sur la France. Finalement, le Front Populaire en France, après certaines hésitations, va choisir la politique de la non-intervention. Il y a quelqu'un qui joue un rôle très important dans la non-intervention de la France auprès de Léon Blum. C'est un diplomate qui s'appelle Alexis Léger. Et Alexis Léger, il est plus connu sous son nom de plume, puisque c'est un poète, il signait sous le nom de Saint John Perse. Alors, j'ai pas à juger ici de la qualité de sa poésie, mais l'histoire porte un jugement très sévère sur son rôle de diplomate et sur sa doctrine de non-intervention. On a vu la suite, on sait que la guerre d'Espagne a été la préfiguration de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est maintenant établi par tous les historiens. Certains disent même que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1936. Bon, on peut en discuter. Mais on sait que combattre Franco, c'était aussi combattre Hitler et Mussolini. Et ça, tout le monde ne l'a pas compris ou n'a pas voulu le comprendre. Et la République française n'est pas venue au secours de la République espagnole.
En 1938, vous l'avez dit, Joseph Almudévar est blessé. Il a gardé d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie des traces de cette blessure.
Oui, il avait dans le ventre trois éclats de mortier qu'il a gardé jusqu'à sa mort pendant plus de 8 décennies. Il a eu trois éclats. Bon, il a été blessé assez sérieusement en mai 1938. Il a été hospitalisé, soigné, presque un mois et demi, 2 mois. Il a toujours eu les stigmates dans son corps de ses combats à Teruel contre les troupes franquistes.
Alors justement, à l'issue de cette hospitalisation, soit en juillet 1938, Joseph quitte l'armée républicaine. Pour quelle raison ?
Il ne la quitte pas, c'est plutôt l'armée républicaine qui le quitte. On sait que dans le camp républicain, il y avait énormément de divisions internes. Des communistes, des socialistes, des anarcho-syndicalistes, le POUM aussi. On a dit que le POUM était trotskiste, c'était un peu plus compliqué que ça, mais bon, il y avait différentes tendances et à l'intérieur de ce camp républicain, des haines tenaces. Bon, c'est sans doute ces contradictions internes au camp républicain qui ont fait que Joseph Almudévar, qui était connu comme communiste, n'a pas pu reprendre les armes avec l'armée républicaine. Il n'a pas pu reprendre l'uniforme de l'armée républicaine, alors qu'il était sergent tout de même. Hein. Et lui-même n'a jamais bien compris ce qui s'est passé.
Et alors, il rejoint les brigades internationales qui sont ses combattants.
Oui, il rejoint immédiatement même les brigades internationales. Donc, en 1936, puisque la République espagnole ne reçoit pas d'aide de la République française, sont créées les brigades internationales. Et donc, ce sont des antifascistes du monde entier venus de 53 pays qui viennent en Espagne combattre Franco, mais aussi ils ont conscience que en combattant Franco, ils combattent aussi Hitler et Mussolini. Ils ont conscience, ces brigadistes du monde entier, qui combattent pas seulement pour l'Espagne, mais ils combattent contre le fascisme dans le monde entier. 15 000 brigadistes sont morts pendant la guerre d'Espagne. 15 000, quoi. Et donc, puisque l'armée républicaine ne voulait plus de Joseph Almudévar, donc lui, il s'est engagé dans les brigades internationales, la 129e brigade.
Et vous disiez, vous engager dans ces brigades, c'était aussi lutter contre le fascisme et le nazisme. C'est d'ailleurs pas un hasard si on a retrouvé beaucoup de ces combattants français dans la résistance ensuite, pour ceux qui, évidemment, avaient eu la chance de survivre. Pourtant, Joseph ne va pas combattre avec les brigades internationales qui sont assez vite démobilisées par le gouvernement républicain, c'est bien ça?
Oui, il va dans les brigades internationales, il va rester très peu de temps. 3-4 mois. La 129e brigade, qui n'est composée que de francophones, doit rejoindre Teruel, où se joue une bataille importante, mais elle est immobilisée, elle ne peut pas matériellement se rendre sur les lieux de la bataille. C'est très frustrant pour Joseph et pour ses camarades. Puis, en octobre 1938, la République espagnole décide de mettre fin aux brigades internationales et ils vont quitter le sol espagnol à la mi-novembre 1938.
Spanish songs in Andalusia, the students hide in the days of 39. The wind and open Frederico lockers, dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black car, the body of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, are flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the gear of Ipanito, yes, the cuera, oh my god, a thong. Spanish bombs, you got the gear of Ipanito, yes, the cuera, oh my god.
Même s'il y passe peu de temps, ça n'empêche pas Joseph de vivre des moments très forts avec les brigades internationales. Parmi ces moments, les adieux de la Passionaria aux brigadistes, la basque Dolores Ibaruri et son célèbre No Pasarán.
Oui, Joseph Almudévar était présent, bien sûr, aux adieux de la Passionaria, Dolores Ibaruri. Il m'avait dit que c'était très émouvant de l'entendre, d'autant plus que la Passionaria avait des talents oratoires hors du commun. C'était une oratrice hors pair. Elle ça avait galvanisé les foules. Et la passionnariat avait dit aux brigadistes, on ne vous oubliera jamais.
La passionnariat qui, après la dictature franquiste, est revenue en Espagne pour jouer un rôle politique, et elle s'est éteinte qu'à la fin des années 1980.
Longtemps après.
La fin de la guerre en 1939 ne signifie pas la fin de la lutte armée pour Joseph Almudévar. Il revient et il est d'abord arrêté avant de rejoindre les guérilleros du Levant. Racontez-nous cet épisode.
C'est peu connu. La guerre d'Espagne ne s'achève pas en février 1939 avec la retirade. Il y a encore des foyers de résistance, notamment du côté d'Alicante en particulier, ou du côté de Valence. Joseph Almudévar, qui était passé en France, n'y restera pas très longtemps. Il revient en Espagne, ça paraît fou, on se dit, il prend des risques insensés. Il va dans un bateau anglais qui transporte de la farine, il débarque dans le port de Valence pour rejoindre des combattants antifranquistes qui mènent la lutte armée. Mais il sera arrêté au bout de 2 mois, condamné à 30 ans de prison. Mais les prisons franquistes sont pleines à craquer. Franco ne lésinait pas quand il s'agissait de faire des rafles auprès de ses opposants. Et donc il y a tellement de monde dans les prisons franquistes qu'ils y sont obligés d'en libérer un certain nombre. Joseph Almudévar en fait partie. Donc il passe quand même 1 an en prison, dans des prisons surpeuplées et sordides. Il est libéré au bout 1 an. Il reprend le combat dans la clandestinité, bien évidemment. Dans des groupes de guérilleros antifranquistes. Ça paraît une lutte un peu désespérée, mais effectivement, les dirigeants de son groupe armé sont arrêtés, exécutés, évidemment, et donc ça devient très compliqué pour lui, il risque de se faire de nouveau arrêter, et il doit s'échapper vers la France.
La retirada que vous avez évoquée, qui est cette reddition des troupes républicaines et leur exil pour beaucoup, et notamment en France, on l'a déjà évoqué dans certains épisodes de podcasting. En 1947, c'est donc la fin du combat armé pour Joseph Almudévar, qui revient cette fois définitivement en France et embrasse d'autres combats syndicaux et politiques cette fois. Quelle vie a-t-il menée dès lors ?
À partir de 1947, effectivement, il franchit les Pyrénées à pied et il va s'établir à Pamiers, dans l'Ariège. Ben, il est maçon, donc il va exercer son métier de maçon. Mais bien évidemment, tel qu'on le connaît, on n'imagine pas qu'il abandonne le combat politique. Il va être militant du Parti communiste français, militant de la CGT, et je peux vous dire qu'il n'était pas à moitié militant. Il était bien engagé, c'était un homme au caractère bien trempé. Il avait combattu les armes à la main, et donc c'était pas trop du genre à faire facilement des concessions.
Quel regard Joseph Almudévar portait-il sur la montée de l'extrême droite en Europe et en France particulièrement ces dernières années ?
Un regard très triste, évidemment. Lui, son analyse, c'était que la classe ouvrière était divisée, et que c'était le grand problème de la classe ouvrière, divisée en de nombreux syndicats, que cela favorisait la montée du fascisme. Ça, c'était son analyse, et cette montée de l'extrême droite, il pouvait la voir de très près, parce que la commune où il habitait, la Tour du Crieu, là, près de Pamiers, c'est précisément une commune où le Front National et puis le Rassemblement National font des scores très élevés. Il y a un vote lepéniste très très fort dans sa commune. Et donc on imagine que lui qui a combattu le fascisme, il le vivait avec beaucoup de tristesse.
Joseph Almudévar s'est donc éteint le 23 mai dernier, à presque 102 ans. Avec lui, je le disais, c'est un pan de l'histoire qui s'est effondré, puisqu'il était probablement le dernier engagé dans les brigades internationales. Vous aviez écrit son portrait pour l'humanité, c'est aussi une page du communisme qui s'est tournée.
C'est peut-être une page du communisme, mais ce n'est pas la page du communisme, quoi, si je me fais bien comprendre. Joseph Almudévar appartient à une certaine génération. Il appartenait à une époque où on était très bloc contre bloc. Joseph Almoudévert reprenait la formule d'Elsa Triolet, il n'y a que deux côtés pour une barricade. Donc si on n'est pas d'un côté, on est de l'autre. Effectivement, il a été communiste à l'époque du stalinisme. Donc il a évolué, mais les personnes de cette génération ont été marquées, évidemment, par la guerre froide. Bon, c'était peut-être un communiste à l'ancienne, on va dire. Et lui-même disait que ses petits-enfants étaient moins engagés politiquement. Il le regrettait un peu, mais en même temps, il disait « Mais oui, mais ils n'ont pas eu la même vie que moi. » Donc, il les comprenait. Bon, le monde a évolué, le communisme a évolué, et sans doute que lui, il était plus caractéristique d'une certaine époque, des premières années du communisme, des premières décennies du communisme.
Merci beaucoup Bruno Vincent d'être venu à notre micro pour évoquer la mémoire de Joseph Almoudévert. Je rappelle le titre de votre papier à retrouver sur le site de l'Humanité, Joseph Almoudévert, un siècle de combat. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour, mais pas toujours avec la voix aussi enrouée, à 16h30, sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.